Vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. C'est allumé, ça marche, c'est formidable. On va prier. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci parce que tu es là au cœur de nos vies. Seigneur, tu veux restaurer, tu veux guérir, tu veux consoler. Seigneur, tu veux faire avancer ton royaume, Seigneur. Et nous avons soif et faim, Seigneur, de plus de justice, plus d'amour, Seigneur, plus de vérité, Seigneur. Nous voulons te voir manifester dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te voir manifester dans nos villes, dans nos cités, Seigneur. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur. Et on nous dit, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Amen. Seigneur, que ta parole, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, ce matin, Seigneur, que puisse communiquer ce que tu as déposé sur nos cœurs, Seigneur, et que ça puisse toucher les vies. Amen.
Vous m'entendez, voilà, c'est super, merci. Hop, on switch. C'est parfait. Donc, on avait demandé, Joe et Elisa avaient demandé à Jean-David de vous parler ce matin. Et puis, en fait, on a eu envie de vous parler ensemble. On aime bien prêcher ensemble avec Jean-David. Et puis, surtout, on a envie de partager avec vous un sujet qui nous a concerné il y a ces dernières semaines. Tout bêtement, hein, on s'est posé la question de comment on allait préparer notre rentrée et quels objectifs on allait se fixer pour notre nouvelle année. Et en fait, on avait envie de partager ce sujet avec vous. Alors, si tu peux lancer le PowerPoint, je veux bien. Merci, Nola. Voilà, donc c'est un sujet, je ne sais pas vous, mais moi, en début d'année, avec mon mari, on se dit toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous cette année? Comment on va s'organiser dans cette nouvelle année scolaire qui s'engage? Dans quoi on s'engage? Qu'est-ce qu'on met comme priorité dans nos vies? Et du coup, ce matin, on voulait... le partager avec vous pour vous donner un petit coup de pouce pour bien démarrer cette rentrée qui commence. Parce que ce qui est important, c'est de mettre les priorités au bon endroit et c'est surtout de hiérarchiser nos priorités, vous allez voir. Parce que si on met les bonnes bases, après, c'est très facile de construire la maison. Mais si on n'a pas les bases, la maison qu'on construit, elle est fragile et ça part un peu dans tous les sens et puis des fois, ça s'effondre. Donc, le but, c'est d'aller dans le bon sens. Et donc, je veux bien la prochaine diapo, Enola. Voilà les trois priorités dont on va vous parler ce matin. La première, vous la connaissez tous, mais c'est toujours important, je trouve, de faire une petite piqûre de rappel parce que justement, c'est la fondation des fondations. La première priorité, c'est mon intimité et ma relation avec le Seigneur. D'accord ? Parce que on veut être une bénédiction pour les autres, on veut servir le Seigneur, mais si on n'est pas sous la source et qu'on n'est pas rempli par le Seigneur, on ne peut pas déborder sur les autres. D'accord ? Si on est sec, on n'a rien à donner. Ou alors on va donner des choses, mais avec nos propres forces, et puis en plus on ne va pas forcément le faire pour les bonnes raisons. Donc l'important, c'est d'être d'abord sous la source et de se laisser remplir par le Seigneur pour pouvoir déborder sur les autres, et ça on va un petit peu le développer. La deuxième priorité, et je pense que c'est fondamental parce que souvent on l'oublie un petit peu, c'est la famille que Dieu nous a donnée. Quand on est parent, quand on est en couple, mais aussi si on est célibataire, c'est peut-être nos parents, c'est peut-être nos frères et sœurs. Quand on est grands-parents, c'est peut-être nos petits-enfants. Mais la priorité des priorités, notre premier ministère, c'est notre famille. D'accord ? Et on va en parler ensemble parce que des fois, on sert le Seigneur à fond, on se donne dans plein de domaines et puis notre famille, elle est en souffrance. D'accord ? Donc, la priorité des priorités, c'est la famille. Et puis, la troisième, dont on va parler et qu'on va peut-être un petit peu plus développer, parce que c'est peut-être la chose un peu nouvelle du jour, c'est vraiment que Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de son royaume partout où on est. Partout où on est, dans l'Église, mais à l'extérieur de l'Église. D'accord ? Et ça, on va le développer ensemble.
Merci. Le premier point que je voudrais développer du coup avec vous par rapport à ce que dit Aurélie, c'est cultiver notre relation avec Dieu. Et c'est vraiment un point central parce que c'est important de se dire on ne vient pas qu'une fois par semaine pour chercher la face de Dieu, pour être dans la présence de Dieu, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver chaque jour, rentrer dans l'intimité, dans le cœur à cœur avec le Père. Et je sais que je prends souvent cette image de votre voiture, peut-être que vous venez une fois... la remplir par semaine pour faire le plein d'essence. Et moi, parfois, le Seigneur m'a repris parce que je me disais, j'étais un peu comme ça avec le Seigneur. Je venais une fois un peu le dimanche pour faire le plein. J'arrivais à la pompe à essence et j'ai dit, Seigneur, super la louange. Chanda Kalachana, allez, bénis-moi, remplis-moi. Hop, la voiture, elle est pleine. Et puis, je vais pour la semaine. Et puis, j'attends la semaine suivante. Et je fonctionnais un petit peu comme ma voiture, comme je vais faire le plein tous les vendredis, parce qu'il y a l'essence à prix coûtant dans le supermarché à côté de chez nous. Et mon mode de fonctionnement, c'était un peu ça. Le Seigneur m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas venir qu'une fois par semaine, faire le plein, remplis-moi, demande-moi juste de me remplir. Mais moi, je t'attends, et je t'attends dans le lieu secret. Et ce que je voudrais partager avec vous ce matin sur la slide suivante, c'est un verset qui dit, que vous connaissez tous, dans Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'aimerais parler avec vous de ce lieu secret, de ce lieu d'intimité, du temps qu'on passe avec Dieu et qui fait en fait que ça va édifier notre esprit, ça va nous fortifier, ça va nous vivifier de l'intérieur. Et c'est ce temps avec Dieu, c'est cette connexion à Dieu qui va nous permettre d'aimer au-delà de ce que notre amour humain il peut aimer quand on vit des choses au quotidien. C'est ce temps avec Dieu qui va vous permettre de pardonner au-delà de ce que vous pouvez pardonner humainement. C'est ce temps qui va vous permettre de persévérer au-delà de ce que vos propres forces humaines, à un moment, elles vous disent, il faut arrêter, t'en peux plus, tu vas lâcher, tu vas craquer. Et c'est dans cette ressource avec Dieu que tu peux aller au-delà de tes propres capacités. Et en fait, c'est ça qui va vous amener à marcher dans une dimension surnaturelle qui va faire de vous, entre guillemets, des êtres spéciaux, parce que vous serez connecté au Père, parce que Jésus habite en toi, parce que le Saint-Esprit habite en toi, et parce que le Père habite en toi. Amen. Et dans ce verset, on voit que le Père, lui, il est déjà là. Il dit, le Père, il est là dans le lieu secret. Le Père, il t'attend. C'est un peu ce que nous disait, merci Sophie, tout à l'heure sur le mois des Louls, où chercher, le Seigneur nous invite à le chercher. Il dit, je suis là. Il dit, viens, viens dans ma présence. Et peut-être que tu as besoin aussi d'être guéri, et on pourra prier pour toi aussi tout à l'heure, d'être guéri de l'image du Père. Parce que parfois, on dit, pour moi, c'est difficile de venir vers le Père, parce que dans nos vies, peut-être que l'image du Père a été faussée, parce qu'on a été abusé, parce qu'on a eu un père absent, parce qu'on a eu un père peut-être qui nous a, au contraire, été violent ou manipulateur avec nous. Donc, mais le Père, lui, il est là, et son amour de Père, tel que qui est plein d'amour, il est là pour nous accueillir dans sa présence, et il attend une chose, c'est qu'on vienne vers lui. Et dans ce verset, il dit que celui... Quand on est dans la présence de Dieu, quand on vient dans ce lieu d'intimité, on dit le Père qui est dans le secret te le rendra. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'il y a une récompense si vous passez du temps avec Dieu. Ça va vous faire gagner de l'énergie, ça va vous faire gagner du temps, ça va vraiment vous aider. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est un petit exemple, ça vaut ce que ça vaut, mais chacun peut s'adapter, mais je vais vous proposer un programme de fitness spirituel. Donc, je sais pas vous, c'est la rentrée, on se pose des objectifs. Hier, avec Aurèle, on était à un forum des associations à côté de chez nous parce qu'on cherchait pour le petit en quoi on va le mettre au foot, au tennis, machin, tout le monde vend son truc. Moi, ce matin, je vous propose une séance de découverte gratuite de fitness spirituel. Donc, comment ça marche? C'est un programme de 30 minutes quotidien avec Dieu. Donc, on peut mettre la slide suivante. Donc, après, vous pouvez l'adapter, hein. Mais simplement, dis-toi que déjà, l'ennemi, lui, il n'est pas content que tu passes du temps avec Dieu. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est t'empêcher de passer du temps avec Dieu. Donc, dès que tu vas vouloir mettre du temps à part, dès que tu vas vouloir consacrer du temps avec Dieu, lui, il va venir un peu te perturber. Donc, déjà, il faut que tu saches que tu vas devoir lutter pour essayer de mettre ce temps en place. Donc peut-être qu'au début, tu ne vas pas y arriver, peut-être tu vas faire 15 minutes, peut-être tu vas faire 10 minutes, mais déjà accroche-toi et petit à petit, tu vas voir les fruits de ça dans ta vie. Donc simplement, tu te dis, quand j'ai 30 minutes devant moi, si tu en as un peu moins, tu t'adaptes, mais dis, ça y est, je vais y aller. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, tu cherches ton lieu d'intimité. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça peut être dans ta chambre, dans un endroit tranquille. Moi, je sais que je fais pas mal de trajets tous les jours. Donc, moi, c'est la voiture, c'est mon lieu secret. Donc, chacun à chacun d'adapter, en fait, en fonction de ses contraintes, de se dire, je prends ce temps, j'ai 20 minutes devant moi, j'ai une demi-heure devant moi, je vais les passer avec Dieu. Donc, te mets pas la barre trop haut non plus, hein, ce n'est pas un truc légaliste que je te dis ce matin, c'est une aide pour t'aider à poser des choses dans ta vie qui vont t'aider à avoir des percées et à aller plus loin. Donc, simplement, tu peux mettre de la louange, tu peux mettre de la louange prophétique, juste instrumentale, parce que parfois il y en a, les paroles ça bloque, il y en a d'autres ça les aide, donc c'est à toi à trouver ça. Et simplement, tu commences à louer Dieu. Et moi, je te conseille d'avoir ta Bible, d'avoir un petit carnet où pour noter des choses, parce que si Dieu te parle, il faut savoir aussi noter un stylo. Alors, le téléphone, tu peux le garder, si c'est pour mettre de la louange, parce que parfois, c'est pratique. Mais si c'est pour répondre à tes mails, pour consulter tes SMS, pour répondre aux gens, tu oublies. Et vaut mieux, parce que en fait, sinon, tu vas vite déborder. Donc, moi, je sais que voilà, il faut à toi de fixer ça. Mais de se consacrer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un temps, vous voyez, c'est 6 fois 5, ça fait 35 minutes de chaque. Donc 5 minutes, au début, tu commences à louer, tu commences à adorer Jésus, tu consacres ta journée à Jésus, tu commences à prier en langue aussi, parce que quand tu pries en langue, ça va édifier ton esprit et tu amènes tes pensées captives à l'obéissance de Christ et tu vas te connecter du coup à sa présence, tu vas te connecter au monde spirituel et tu vas rentrer dans les choses de l'esprit. Et parce que la Bible, elle nous dit que c'est en esprit qu'on adore. Les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Amen. Et donc simplement, tu commences à louer, tu commences à adorer Dieu et tu vas voir que Dieu, dans sa présence, il va te demander, il va te donner les stratégies, il va te conseiller pour la journée, tu vas avoir des choses qui vont venir. Et voilà, donc moi, j'ai 5 minutes là, 5 minutes de reconnaissance. 5 minutes de reconnaissance, la reconnaissance, c'est très puissant, la reconnaissance. Ça commence à ouvrir le ciel sur ta vie. Et la reconnaissance, c'est simplement dire merci. Et bon, comme ça, je dirais, la phrase, elle paraît anodine, dit ouais, c'est simplement dire merci. Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, je n'étais pas assez reconnaissant. Quand je commençais à prier, je commençais à dire, Seigneur, oui, Seigneur, je voudrais un nouveau travail parce que là où je suis, ça se passe mal, je ne suis pas bien, ou etc. Il y a des moments comme ça dans votre vie où vous priez au Seigneur, je voudrais. Et Seigneur dit, mais est-ce que tu me bénis déjà pour le travail que je t'ai donné? Est-ce que tu commences à me remercier pour la santé? Est-ce que tu me. Et j'ai commencé à changer ma manière de voir les choses. Et je dis, Seigneur, ouais, Seigneur, je veux être reconnaissant. Seigneur, merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour le toit que tu m'as donné. Merci parce que je respire, Seigneur. Merci pour la santé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que là, tu m'as placé. Ok, c'est pas facile, Seigneur. Mais là où tu m'as placé, c'est parce que tu as un plan, parce que c'est parce que tu voulais que je sois là. Et tant que tu m'as placé là, je veux apprendre de toi dans cet endroit, Seigneur. Et je veux être un témoin de toi là où tu m'as placé. Commencez à bénir, à remercier Dieu. Et vous allez voir que ça va amener aussi des fruits sur votre vie. Le combat, c'est vraiment un combat spirituel, la reconnaissance. Mais quand tu vas rentrer dans la reconnaissance, tu vas voir que le ciel va s'ouvrir pour Dieu, pour toi, et que Dieu va agir. Et puis après, tu peux prendre 5 minutes pour prier, pour présenter les gens que tu as dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, les sujets de prière pour l'église, etc. Tout ce que Dieu dépose sur ton cœur. Donc tu peux prier les choses que tu as sur ton cœur, et puis tu peux aussi demander à Dieu aussi qu'est-ce qu'il a, lui, sur son cœur, et ce pourquoi tu voudrais que lui, il prie, pourquoi il t'attend. Et après, simplement, tu peux prendre 5 minutes pour lire la Bible. Donc tu prends, alors il y en a qui ont qui disent des plans complets de la Bible en un an, etc. Mais déjà, moi je dis, tu prends un passage, tu lis ce passage, tu me prends 5 minutes, tu lis la parole. Et tu la médites pendant 5 minutes. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me communiquer? Qu'est-ce que tu veux pour cette journée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu. Et t'écoutes Dieu te parler aussi. Et peut-être que dans ce temps, Dieu va te montrer que, oui, dans ton cœur, tu as encore de l'amertume pour une personne, tu as encore besoin de pardonner. Peut-être qu'il va te montrer aussi que dans ce temps où tu vas l'écouter, il y a des choses à mettre en règle dans ta vie. Et du coup, c'est important d'être à l'écoute de Dieu. Voilà. Et tu arrives, tu as fini tes 30 minutes et tu dis, Seigneur, je te consacre cette journée. Amen. Il y a un verset dans le psaume 34 sur la slide suivante, au verset 8, qui nous dit: Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Donc, ça que je veux dire, c'est qu'il y a une récompense à s'approcher de Dieu. Dans le psaume, il est dit aussi: goûtez et voyez. Et ce que je vais vous inviter ce matin, c'est dire: venez, venez goûter. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon et combien Dieu veut manifester sa bonté dans ta vie parce qu'il veut être la solution à tes problèmes. Je peux te dire que si tu passes du temps avec Dieu. Tu vas voir qu'il y a des choses, Dieu va te donner des clés, Dieu va te donner des solutions, il va t'aider, il va dire, mais est-ce que tu as pensé à ça? Et ça va débloquer des choses dans ta journée, ça va te faire gagner du temps. Mais ça implique aussi qu'il faut que tu t'engages, il faut que tu sacrifies du temps, et il faut aussi que ben, je t'encourage, moi, vraiment, à poser ce temps d'intimité avec Dieu. Amen.
Voilà, alors une fois qu'on a posé cette base fondamentale, on va passer à la deuxième priorité dont on a parlé tout à l'heure. Et cette priorité, donc, c'est nos familles. Prendre soin de sa famille. Donc, comme je disais, pour les gens qui ont la chance d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants, ben c'est ça, notre priorité. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas encore, hein, ça peut être des personnes qui sont autour de vous, qui sont très proches de vous, vos parents, vos petits-enfants, vos frères et sœurs, enfin voilà, les gens que Dieu met vraiment fortement sur votre cœur. Donc il faut savoir que la famille, c'est le premier ministère que Dieu nous confie, d'accord ? Et c'est le premier endroit où on va pouvoir faire ce que la Bible nous demande, c'est-à-dire arracher les mauvaises herbes, semer les bonnes graines, et arroser avec les prières, avec l'amour, avec la présence. Et puis après, on va voir les beaux fruits. Hein. C'est des fois du travail, mais ça porte des beaux fruits. Et moi, je suis sage-femme. Et dans mon quotidien, j'ai souvent des mamans qui me demandent, c'est souvent leur premier bébé. Et d'un seul coup, à la fin de la grossesse, elles ont cette angoisse. Et elles me disent, mais Madame Barbe, vous croyez que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais être capable d'être une bonne maman? Et souvent, quand elles me disent ça, je dis déjà, de se poser la question, c'est bon signe. Et puis la deuxième chose, c'est que je leur dis, vous savez, ce qui est très important, c'est votre couple. Parce que si votre couple y va bien, votre enfant, ils vont aller bien. Donc, investissez dans votre couple, d'accord ? Ça, c'est fondamental, parce que des enfants heureux, c'est déjà des parents heureux. C'est des parents qui vont bien et qui s'entendent bien. Je sais que les histoires de vie ne sont pas toujours simples, hein, que des fois, on a des histoires de couple qui sont difficiles, mais en tout cas, il faut investir, messieurs, dames, dans nos couples, d'accord ? Le bonheur de nos enfants en dépend. Et puis, notre histoire personnelle à chacun aussi, et notre destinée, elle dépend aussi beaucoup de notre couple. Et c'est pour ça que je pense que le premier endroit où il faut investir et passer du temps et nourrir, c'est notre couple. D'accord ? Voilà. Donc, avant, messieurs, dames, de remplir vos agendas de la rentrée avec toutes vos activités multiples et variées, hein, j'en suis la première, mon agenda de septembre-octobre est déjà blindé, et bien, la première chose qui est importante, c'est de dire ben, où est-ce que je passe des moments de qualité avec mon conjoint. Hein, de vous bloquer des soirées, de vous bloquer des temps où vous allez vraiment consacrer du temps à votre couple. Ce n'est pas forcément des grands moments, ce n'est pas forcément tous les soirs, etc. Mais il y a des moments où voilà, on se consacre vraiment à notre couple, on passe du temps ensemble. Et si on a la chance d'avoir un conjoint qui est chrétien, ben, passer du temps ensemble dans la présence du Seigneur, chercher la face de Dieu ensemble, c'est un privilège énorme que l'on a. Il ne faut pas s'en priver. Voilà. Donc ça, c'est important, passer du temps. Et puis la deuxième chose, hein, qui est importante, c'est de demander à Dieu de nous remplir toujours plus d'amour pour notre conjoint. Hein. Ça, c'est Dieu qui nous remplit d'amour pour l'autre. Hein. Donc il faut rechercher cet amour aussi pour notre conjoint. Il faut chercher à être meilleur, à changer. Et ça, si vous le faites individuellement, chacun de votre côté dans votre couple, bah, votre couple, il va aller super bien. Donc on n'attend pas que l'autre change. On change soi-même déjà, d'accord ? Ça, c'est un deal important pour que le couple aille bien. Et puis, encouragez-vous, valorisez-vous, pardonnez-vous avec l'aide de Dieu. Voilà. Et pourquoi c'est si important ? Parce que le couple, c'est l'image de Dieu sur la terre, d'accord ? C'est mis dans la parole, hein. L'homme et la femme ne font plus qu'un et ils représentent l'amour de Dieu sur la terre. Donc, quand vous êtes unis dans votre couple, et ben vous êtes un témoignage pour vos enfants et puis vous êtes un témoignage pour votre entourage sur la terre. Et c'est pour ça que l'ennemi, il cherche tellement à dégommer les couples, hein. Il cherche tellement à les détruire, c'est parce que le couple, c'est l'image de Dieu sur la terre. Donc, vraiment, investissez dans vos couples, hein. C'est hyper important. Mettez le paquet là-dessus parce que c'est la priorité de la famille. Et puis ensuite, la seconde chose qui est importante, c'est nos enfants. Ça passe avant l'église, ça passe avant le travail, ça passe avant le ministère. Hein. C'est notre premier ministère, c'est nos enfants. Il y a plein de versets dans la Bible qui disent que les enfants, c'est une bénédiction. Donc, il y a le psaume 127, par exemple, hein, qui dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Alors, Des fois, on interprète mal le mot bénédiction. On s'imagine que d'avoir des enfants, ça, c'est une bénédiction dans le sens où ça va être super tous les jours et ça va être merveilleux. Oups, c'est pas toujours le cas, d'accord ? La bénédiction, la définition de la bénédiction, c'est quelque chose qui nous rend meilleurs, qui nous fait grandir. Et ben, nos enfants, ils nous rendent meilleurs et ils nous font grandir. Même à travers les galères, même à travers les épreuves, même à travers les difficultés, et ben, Dieu nous forme, Dieu nous pousse, Dieu nous challenge et il nous rend meilleurs à travers nos enfants. Alors ça demande aussi beaucoup d'humilité, hein. Il faut demander l'aide de Dieu parce qu'on est dans une société pas facile et des fois on a du mal à savoir comment aider nos enfants. Dans ce monde où le bien devient mal, le mal devient bien, et ben, c'est à nous vraiment d'être ses guides pour nos enfants. Et je voulais juste vous partager une chose, je ne sais pas si ça vous a interpellé quand vous avez lu l'histoire d'Élie dans l'Ancien Testament. Vous savez que Élie, c'était un immense prophète de Dieu, hein, de l'Éternel. Et pourtant, on voit dans Samuel 1, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Enola ? C'est celle-là. Dans 1 Samuel 2, verset 12, il est dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ne connaissaient point l'Éternel. Vous rendez compte, c'est le grand prophète de l'Éternel, il guide le peuple et il a complètement planté l'éducation de ses enfants. Il n'a même pas réussi à faire en sorte que ses enfants ils connaissent l'Éternel. D'accord ? Donc Élie, il s'est investi à fond dans son ministère, mais il est un peu passé à côté de l'éducation de ses enfants. Et si vous lisez tout le chapitre 1 Samuel 2, vous verrez que du coup, la sentence de l'Éternel, elle est sévère, hein, parce que l'Éternel, il dit à Élie, tes enfants, ils vont mourir tous les deux le même jour, et je ne peux pas leur transmettre ton ministère et ta sacrificature, parce que c'est des hommes pervers qui ne me connaissent pas, et du coup, je vais me choisir un autre sacrificateur et un autre prophète. Et c'est juste derrière ça que Anne, vous savez, la mère de Samuel, elle va venir pleurer dans le temple parce qu'elle n'a pas d'enfant, et que Samuel va lui prophétiser qu'elle va avoir un fils, et puis ce fils, ce sera Samuel. Samuel va être ramené à Élie, et là, Élie, il ne va pas rater l'éducation de Samuel. Là, il va s'y consacrer, il va passer du temps, et il va lui apprendre à écouter la voix de Dieu, d'accord ? Et ce sera le grand prophète qui va le suivre. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas rater l'éducation de nos enfants, d'accord ? C'est la priorité des priorités. Alors, de façon très, très concrète, comment est-ce qu'on s'occupe de nos enfants ? L'école du dimanche, c'est super. Et merci Zaza et Serge pour tout ce que vous faites pour les enfants, pour l'école du dimanche. Mais ça ne suffit pas, on est d'accord ? Le dimanche, c'est chouette si on sème quelque chose dans leur petit cœur, mais ça ne suffit pas. C'est à nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant que peut-être tantes et oncles, d'accompagner nos enfants, de lire la Bible avec eux, de prier ensemble, de leur apprendre à écouter Dieu. Ils sont petits, mais ils ont la capacité d'entendre la voix de Dieu. Donc, apprenez-leur à écouter le Seigneur. Apprenez-leur aussi à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ce monde où on se perd un peu. Hein. C'est à vous d'être leur guide. Reprenez-les, aimez-les, valorisez leurs dons et leurs talents. Parlez avec eux, prenez du temps. Écoutez aussi ce qui se passe à l'école. Hein. Qu'est-ce que tu as appris à l'école ? Qu'est-ce que les maîtres ont dit ? Ça va dans tes relations avec tes copains et tes copines. Voilà, tout ça, c'est super important. Vous allez fonder vraiment des choses solides chez vos enfants. Et puis, bien sûr, notre rôle en tant que parents et grands-parents, c'est de prier pour nos enfants, hein. De prier pour leur protection, de prier pour leur choix, de prier pour leur futur conjoint. C'est un vrai ministère et il ne faut pas passer à côté. Voilà, donc on a vu, 1, ma relation avec Dieu, 2, mon couple, 3, mes enfants, et on passe à la suite.
Juste par rapport à ce que disait Aurélie, je crois que c'est important de se dire, et ce qui me frappe aussi dans l'histoire d'Élie, c'est que en fait, même si dans nos vies on a des parcours de vie chaotiques, même s'il y a des moments où on a pu faillir à ce que Dieu attendait de nous, Dieu offre toujours un plan et un plan de restauration. Et ce qu'on veut dire ce matin, on ne vient pas vers vous pour dire voilà, la priorité c'est le couple, la famille, le petit truc modèle qu'il faut vous prêcher, c'est ça qu'il faut faire, etc. Pas du tout. Ce matin, on va vous donner des clés parce qu'on sait que ces clés, ça porte du fruit sur la vie. Mais on sait aussi que parfois, la vie nous a amené à vivre des choses différentes, que peut-être que ton conjoint t'a quitté, peut-être que tes enfants vivent loin de toi, t'es en rupture. Mais ce qu'on veut dire ce matin, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours une porte de restauration, il y a toujours une porte de consolation, de guérison. Et que si tu commences à vraiment être reconnaissant, à porter ça à Dieu, à cultiver ça avec Dieu, eh ben, tu vas voir que Dieu va agir. On l'a dit, on a chanté ce matin, Dieu de l'impossible. Et moi, je crois que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et que dans la vie, il nous redonne toujours en fait des opportunités en fait de recommencer, de prendre des nouveaux départs avec lui. Et ce qu'on voudrait aussi vous dire ce matin. Le dernier point qu'on voulait vous partager, c'est aussi cette rentrée, c'est la reprise du travail, la reprise des études où on est là. Et en fait, ce que Dieu nous appelle aussi, c'est être des ambassadeurs dans son royaume en fait. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu prêcher l'évangile du royaume. Il n'est pas venu prêcher l'Église, il est venu prêcher le royaume de Dieu. Et on voit dans... Si tu avances, Enola, sur le suivant, où ça bug aussi, que Dieu veut qu'on soit un ambassadeur de son royaume. Le royaume, c'est plus grand que l'Église. Et ce que je vais vous dire, c'est que souvent, en fait, dans l'Église, on s'est dit, ben, servir Dieu, c'est servir dans l'Église. Ça veut dire, c'est apporter un message, c'est jouer le... la guitare accompagnée à la louange, et puis on s'est dit, voilà, le service de Dieu, c'est ça. Moi, ce que je veux te dire ce matin, c'est que ton service pour Dieu, là où Dieu t'appelle, là où il t'a placé dans ton travail, dans la société, dans la politique, dans l'associatif, dans ton quartier, c'est là ton champ de mission. Et que là où Dieu t'a placé, ben, c'est dans le royaume. Et dans le royaume, tu dois être un témoin de son royaume. Et je vais vous dire que moi, j'ai réalisé ça, je vais la redire. Je suis désolé pour ceux qui l'ont entendu, parce que je l'ai déjà dit ici. Mais je sais qu'il y a des gens nouveaux aussi ce matin. Une fois, j'étais en Calabre pour prêcher avec un ami, accompagner un ami qui prêchait là-bas. Et on reprenait notre avion le lundi matin. Et le frère chez qui on dormait, qui nous hébergeait, il nous dit, mais en fait, je lui dis, bah, il habitait à côté de l'aéroport, mais je lui dis, à quelle heure on part demain pour prendre notre avion? Et il me dit, bah, je ne sais pas, à 5 heures du matin. Et l'avion était style à 6 heures. Donc moi, je trouvais quand même que c'était très, très short parce que je suis plutôt quelqu'un d'organisé qui aime les choses pensées et avoir un peu de temps. Et j'aime pas découvrir les choses au dernier moment. Il dit non, non, t'inquiète pas, j'habite à côté de l'aéroport, ça va le faire, vous pouvez dormir tranquille, etc. Donc on se lève, hein, on déjeune, on y va. Bon, moi, j'étais déjà un petit peu en mode stress. On arrive à l'aéroport, je croyais qu'on allait enregistrer les bagages et que là. Et là, il me dit, Jean-David, tu veux boire un café? Un café, ok, ouais, si, c'est un bon café italien. Donc, bon, on boit le café tranquille. Mon ami s'appelait Walter et Walter était vraiment pas stressé. Et je commençais à paniquer. Je disais, bon, c'est bon, on va louper l'avion là. On boit le café, on va aller pour l'embarquement. Et là, il y avait des gens qui étaient tous devant le portique de sécurité avec leurs bagages, leurs valises, etc. Et puis passer les contrôles, il devait enlever, vous savez, on enlève les ceintures, les machins, tout ça. Et puis il dit, venez avec moi. Donc on le suit. Et puis là, on poste. Il dit, non, c'est bon, ils sont avec moi. Et on passe à travers les portiques, tout habillé, bip, 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 ça sonne de partout et tout. Les gens, ils nous regardaient, ils disaient, c'est qui ces deux-là, qu'est-ce qu'ils font? Et on va dans la salle d'embarquement, dans le petit salon, on s'assoit comme ça. Tous les gens nous dévisageaient, ils disaient, mais c'est qui ces VIP-là? Et donc, je dis, c'est bon, on va avoir l'avion. Et en fait, le frère, il était à la police aux frontières et il gérait la sécurité à l'aéroport. Et on ne le savait pas. Et je lui dis, bah, c'est gentil, Walter, tu peux y aller. Merci, maintenant, on va avoir notre avion et tu peux y aller. Et il me regarde et il me dit, Jean-David, ici, je suis chargé de la sécurité, en fait, des personnalités, des ambassadeurs, des diplomates. Et en fait, ma mission, quand je les accompagne, c'est de les accompagner jusque dans l'avion. Et tant qu'ils ne sont pas dans l'avion, je n'ai pas terminé ma mission parce que mon job, c'est d'assurer la sécurité jusqu'à ce qu'ils soient montés dans l'avion. Et il me regarde et il me dit, Jean-David, pourquoi je ferais moins pour un ambassadeur du roi des rois que pour un ambassadeur d'une nation sur cette terre? Et ça m'est toujours resté, et c'est là que j'ai compris qu'on était des ambassadeurs du roi des rois. Et partout où tu vas, tu portes le royaume de Dieu. Dans ton travail, dans tes études, tu portes le royaume de Dieu. Alors, dans Luc, au chapitre 17, il est dit, sur la station, les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu s'est approché de vous, il est au milieu de vous. C'est-à-dire que Jésus, il est venu sur cette terre, il est venu pour régner. Et il nous apporte son esprit et on doit être des témoins de son royaume et on doit marcher avec la mentalité du royaume. Bien sûr, on prie que ton règne vienne parce qu'on sait qu'un jour il va revenir, il va régner pendant 1000 ans et puis après il va avoir des nouveaux cieux, des nouvelles terres et son royaume éternel définitif va s'établir. Amen. Mais en attendant, eh ben, c'est à nous de véhiculer le royaume. Et si on met la slide suivante, il dit un verset où il est dit que allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'est pas dit allez et simplement faites des disciples. Il est dit allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le but du Seigneur, c'est qu'on mette en pratique ce commandement de faire de toutes les nations des disciples. Donc ce que je veux vous dire, c'est que notre objectif, ça doit être que notre nation, elle se tourne vers Jésus. Ça veut dire que la mission de Jésus, ça ne se limite pas à sauver des individus, mais son but, son objectif, c'est d'amener des nations entières à lui. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous verrez qu'à la fin des temps, il y a des nations entières qui vont venir, qui vont déposer leur couronne et qui vont le reconnaître comme le roi des rois. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut penser plus large que l'Église. Il faut penser plus large que ces quatre murs. Et que ton témoignage, ton ministère, là où Dieu t'a placé pour toucher les gens, pour impacter la société, c'est en dehors de ça. Bien sûr, ça y contribue, parce qu'ici, tu es équipé, ici, tu es enseigné pour. Mais servir Dieu, ce n'est pas que là. Servir Dieu, c'est tous les jours, là où Dieu t'a placé, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans tes études. Amen. Et on doit impacter toutes les sphères de la société. Et si tu réalises que là où Dieu t'a placé, que par exemple dans ton travail, eh ben, tu es un témoin de Jésus, eh ben, ça va te changer la manière de voir ton travail. Tu peux dire ton travail, c'est juste quelque chose que tu fais, et puis c'est quelque chose voilà, et d'alimentaire. Mais tu peux aussi le voir comme un endroit où tu vas être un témoin de Jésus. Le frère dont je vous parlais qui était en Calabre, là, par exemple, sa femme, elle était esthéticienne. Et elle a monté un salon d'esthétique. Et dans son église, qui était quand même assez, on va dire, voilà, traditionnelle italienne, c'était très malvenu, parce que voilà, les esthéticiennes, c'était un peu le monde, etc. Elle n'était pas comprise à l'époque. Hein, bon, ça change un peu, mais. Et elle avait vraiment à cœur de faire ça. Et elle m'a amené dans son salon. Et c'était vraiment. Je trouvais vraiment chouette ce qu'elle faisait, parce qu'elle mettait de la louange, comme ça, 24-24. Et puis elle m'a fait, c'était très pro, hein, franchement, ce qu'elle a fait, c'était chouette. Et je voyais l'endroit où elle faisait les soins, alors je ne sais pas comment ça, de pédicure, des ongles aux femmes, etc. Elle avait mis un tableau sur le mur et on voyait deux pieds percés ou deux mains percées. Et c'était les pieds et les mains de Jésus. Et elle me disait, en fait, quand les femmes, elles s'assoient, les femmes de la ville qui venaient là pour se faire les ongles, puis elle disait, mais c'est bizarre, c'est quoi ce tableau? Pourquoi vous mettez ce tableau avec des mains percées? Et elle commençait à leur parler de Jésus, elle commençait à parler de l'amour de Jésus. Et cette femme, elle a amené des tas de femmes dans sa cité, dans sa ville à Jésus, à travers son travail, à travers son témoignage. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut changer notre mentalité et que là où on est, eh ben, il faut trouver les stratégies pour dire, Seigneur, là où tu m'as placé, je veux être un témoin. Et cet été, on visitait Saint-Émilion, je ne sais pas si vous connaissez le voilà, grand vin de Bordeaux. Et dans le village, il y a un petit cloître. Et là, c'est pareil, je vois une fresque. Toute l'Apocalypse. Et donc je commence à regarder, puis il y a un gars qui vient, qui commence à nous parler, il me dit, ah, vous connaissez, puis il commence à me poser des questions, et ça c'est quoi pour vous, etc. Et puis en fait, et après, il a vu qu'on était chrétiens, on discutait. Et en fait, ils ont fait une fresque sur l'Apocalypse, et lui, tous les jours, il accueille les touristes, et il leur parle de Jésus à travers l'Apocalypse, il leur montre le plan de Dieu de salut pour eux, et il les amène à Jésus. Il me dit, avant j'allais évangéliser partout, j'allais chercher les gens dans la rue. Ça. Il dit, maintenant les gens ils viennent à moi et j'ai plus qu'à leur parler de Jésus. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais chouette ce qu'ils faisaient parce que je me dis, parfois il y a des gens qui sont ingénieux dans leur manière de trouver des idées voilà, pour témoigner de Jésus. Dans la salle suivante, dans Jérémie 29, verset 7, et puis on va avancer, il y a un verset qui dit, recherchez le bien, recherchez la paix, le shalom de la ville où je vous ai menés en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, À cette époque, le peuple d'Israël, il a été capturé, il a été amené en déportation par Nabucodonosor à Babylone. Ils sont déportés, les Juifs, ils prient, ils sont en train de crier à Dieu. Et eux, je pense que dans leur tête, ils n'ont qu'une chose, c'est qu'ils espèrent être délivrés, ils espèrent retourner à Jérusalem et ils croient que Dieu va les sortir de là. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce... Qu'est-ce que Dieu leur répond ? Ben, il ne leur répond pas du tout ça. Il ne leur dit pas « Je vais vous délivrer et vous allez retourner à Jérusalem tout de suite. » Il leur dit « Recherchez le bien, le shalom, de la sécurité et priez pour le lieu où je vous ai amené en captivité, pour ceux qui sont là, qui vous ont déporté, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et je me dis que parfois, nous, on est un peu comme le peuple d'Israël. Parfois, on crie à Dieu, « Seigneur, délivre-nous. Seigneur, on voudrait déjà être au ciel. On voudrait vivre des miracles. On voudrait vivre l'éternité. » Puis parfois, on a la réalité du terrain où, tous les jours où c'est parfois difficile. Et Dieu, il nous dit « Bénissez la ville. Bénissez le monde où je vous ai placé. Recherchez le shalom, la paix, au sens de sécurité. » On voit là dans le sens hébreu, au sens de absence de conflit. Moi, je ne sais pas si ça vous parle, mais aujourd'hui, quand vous écoutez les infos, vous avez quoi ? Sécurité, insécurité, des conflits dans la famille, des conflits dans la rue, dans les quartiers, des conflits en politique, etc., etc. Et est-ce qu'on croit que Dieu, il veut nous parler aussi et qu'il peut nous donner des consignes et des directives ? Il y a un verset pour les gens, pour là où on est placé, pour témoigner d'une grâce particulière. Il y a un verset dans Jean 17,15 qui dit « Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et j'ai vu que c'est toi qui disais, je recevais ça cette semaine, que le Seigneur, oui, on va vivre des temps. Le Seigneur a dit que autant lui, il a été rejeté, il a été haï, et ben le monde va nous rejeter parce qu'on n'est pas du monde. Mais Dieu nous a placés dans ce monde pour être des témoins. Et le Seigneur n'a pas prié pour nous ôter du monde, mais il a prié pour qu'on soit préservé du mal. Amen. Dans Matthieu 5, verset 13, il est dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, pourquoi est-ce que ça... Bon, parfois, on se dit pourquoi il balance le sel et tout. Parce qu'avant, il y avait du sel, c'était un peu comme des sortes de cailloux, de blocs qu'on mettait dans la soupe et que ça mettait de la saveur, ça donnait, ça exhaussait le goût. Puis après, quand ça perdait de sa saveur, quand ça perdait de son goût, en fait, ils jetaient le sel restant. C'était comme des petits cailloux de sel et ça servait à paver les routes. Et après, on marchait dessus. Et c'est pour ça qu'il est écrit et il sera foulé aux pieds, en fait, par les hommes parce que ça finissait sur le sol. Et ce que je veux vous dire, c'est que le sel, en fait, ça donne soif. Si on est le sel de la terre, on doit donner soif. Amen. On doit amener les gens, en fait, dans la présence de Dieu. Et ça doit faire une différence. On doit être ses saveurs. Le sel aussi, on voit que c'est un conservateur puissant. Hein, c'est un peu l'ancêtre du frigo. Avant, on mettait le jambon, on mettait les choses dans des sortes de blocs de sel. Là. Et pourquoi ? Parce que ça ralentit la propagation des bactéries. Et Dieu, où il nous a placés, eh ben, il veut qu'on ralentisse la propagation des bactéries des ténèbres. Il veut qu'on soit là, qu'on puisse apporter sa lumière. Et dans la suite du verset, on voit qu'il est dit que vous êtes aussi la lumière du monde. Et c'est la parole qu'a reçue Jules ce matin, c'est que parfois, ben, tu as une petite lumière, mais que la lumière, en fait, eh ben, elle va éclairer les ténèbres, là où Dieu t'a placé. Et si la lampe, on ne la met pas sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire toute la pièce. Et ce que je crois que Dieu veut nous dire ce matin, c'est que là où il est, il veut que ça éclaire toutes les pièces. Amen. Et dans la Bible, il y a un verset dans Matthieu 16, verset 19, où il nous est parlé du royaume. Et le Seigneur, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc en fait, Dieu nous a donné des clés, et ces clés, c'est à travers la prière et l'intercession. Et si tu crois que là où tu es, tu n'es pas simplement passif et que bah oui, tu es là, il faut t'attendre que ça se passe, et puis on verra si ça va mieux ou pas, mais si tu crois que Dieu t'a placé dans un endroit pour consacrer cet endroit à Jésus, pour être un témoin de sa lumière, pour être le sel là où Dieu t'a placé, Et si tu crois que par ton témoignage, par ta prière, par ton intercession, tu peux faire évoluer les choses, et si tu t'en empares, tu vas voir des choses.
Je voulais juste vous donner un témoignage aussi sur, comme dit Jean-David, l'important c'est qu'on soit là où Dieu veut qu'on soit et qu'on soit un témoin là où on doit être. Mais il y a aussi une puissance très forte dans la prière. Et je crois vraiment que là où Dieu nous place, on est aussi appelé à être des gens qui prient pour l'endroit où on est. Alors, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos études pour les jeunes, que ce soit dans notre famille, partout où Dieu nous place, on est appelé à être des personnes qui prient. Et je vous donne juste un petit témoignage personnel. Moi, je suis sage-femme et dans mon service, il y a quelques années, on accueillait aussi les patientes qui venaient pour faire des IVG médicamenteuses. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me positionner par rapport à ça? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le Seigneur m'a dit, si je te place là, c'est pour que tu pries pour la vie. Et à partir du moment où j'ai eu cette révélation, je dis, Seigneur, ok, je vais m'y mettre, je vais prier. Et tous les matins, en allant au travail, dans ma voiture, je demandais pardon à Dieu pour ce qui se faisait de mauvais dans mon service et j'appelais la vie. Et je disais, Seigneur, vraiment, je proclame la vie sur mon service, je proclame la vie sur ces bébés. Et on faisait aussi des interruptions médicales de grossesse pour des malformations chez les bébés. Et pareil, je priais, je disais, Seigneur, vraiment, j'appelle vraiment la bonne santé sur les grossesses, je refuse la maladie, je refuse les malformations et j'appelle ta vie et ta bonne santé sur les enfants qui vont naître dans ma maternité. Et à partir du jour où j'ai commencé à faire ça, on a vu le taux d'IVG chuter dans le service et pendant quelques mois, on n'a eu aucune interruption médicale de grossesse. À tel point que j'allais aux staffs médicaux et je voyais les médecins qui parlaient ensemble et qui disaient « on ne comprend pas, le taux d'IVG a chuté, et ça fait des mois qu'on n'a pas eu d'interruption médicale de grossesse, il doit y avoir du détournement de clientèle, le CHU doit capter nos patientes ». Donc, ils sont allés faire une enquête et ils se sont rendus compte que pas du tout. Il n'y avait pas plus de patientes qui venaient de chez nous au CHU de Grenoble. Et donc, ils en ont conclu que c'était juste une diminution et qu'il devait y avoir des bonnes ondes sur Voiron. Merci Seigneur, d'accord ? Donc, voilà, tout ça pour vous dire que je crois vraiment à la puissance de la prière. Et là où Dieu vous a placé, s'il y a des conflits, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses malsaines qui se font, vous n'êtes pas forcément obligé de vous battre avec vos petits poings, mais par contre, vous pouvez vous battre dans la prière. Et là, vous allez avoir du succès. D'accord ?
Amen. Si on avance un peu, il y a dans un verset dans Romains 14, verset 17, qui dit, tu peux avancer un peu, parce que c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, et la joie par le Saint-Esprit. Donc, en fait, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu reçois une paix, tu reçois un shalom particulier, tu as un esprit de justice, et tu peux rendre la justice, tu peux communiquer la joie. Je ne sais pas si vous avez entendu les statistiques, mais la France, c'est le pays au monde où il y a eu le plus de dépression. Est-ce que toi, tu peux apporter la joie là où tu es? Est-ce que tu peux communiquer la joie? Est-ce que tu peux être un témoin de ce royaume? Je disais quelqu'un qui disait un gâteau, ça se partage et puis après, on a des parts en moins. La joie, ça se partage, mais ça se multiplie. Tu peux multiplier la joie. Tu peux apporter le cœur de Dieu. Tu peux amener l'amour de Dieu. Il dit à quoi ils reconnaîtront que vous êtes mes enfants? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La justice. Je me rappelais, j'ai mon oncle qui me disait au tout début de sa carrière, il était directeur sur Montpellier d'une entreprise. Et dans son job, il était habitué à négocier, à marchander, etc. Donc lui, il était tout content. Il devait faire rentrer du fioul chez lui. Et du coup, il négociait, il tirait les prix au rat. Et puis, il était tout content parce qu'il avait fait une bonne affaire. Il avait un prix super bas. Et puis, le gars, le livreur, vient livrer le fioul à sa maison. Et puis, ouais, c'était un petit camion qui ne payait pas de mine. Il s'est rendu compte que le gars, il ne roulait pas sur l'or et qu'il avait un peu abusé, on va dire, de ça. Donc, il l'a payé. Puis le Seigneur l'a repris dans son cœur, il est allé, il lui a donné un pouvoir, il a rajouté de l'argent pour avoir une somme juste par rapport à ce qu'il lui avait demandé. Et il lui a mis une Bible avec, il lui a payé à boire et il est parti. Et des années après, ce gars-là est revenu livrer le fioul chez une de mes tantes. Et puis il voit un calendrier de la bonne semence et puis il a interloqué et puis il parle avec elle et tout. Il dit, mais vous connaissez monsieur Machin? Elle dit, oui, c'est mon frère. Il dit, vous savez ce qu'il a fait pour moi une fois? Il m'a donné une Bible, il m'a redonné de l'argent parce qu'il considérait qu'il ne m'avait pas assez payé et que le prix que j'avais fait était trop bas. Et je dis que Dieu aussi, ben voilà, ça m'a appris en disant, Seigneur, oui, qu'on soit juste. Si tu es un artisan, ben paie-le au bon prix. Et Dieu nous attend dans des actes comme ça de justice, parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Amen. On doit faire descendre le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, je finirai par là, c'est vous dire, le royaume d'Égypte, c'est toujours plus de briques, avec toujours plus moins de matière, et tu dois produire du brique, tu dois produire des briques. Et là, c'est l'esprit d'Égypte, c'était esclave. Et les briques en Égypte, elles sont toutes pareilles. C'est le même modèle, le même standard, il y a des moules. Quand ils fabriquaient, c'était à la chaîne, c'était les mêmes briques. Moi, ce que je veux te dire, c'est que le royaume de Dieu, quand tu vois le mur, le cotel à Jérusalem, c'est plein de petites briques. Il y en a des grosses, il y en a des petites, des pierres, pardon. Et ces pierres-là, bah, elles ont des tailles différentes. Elles sont uniques, elles sont différentes, elles ne se ressemblent pas. Mais elles s'emboîtent ensemble, elles forment un beau mur. Et c'est comme ça que le temple était construit. Et ce que je veux te dire, c'est que l'esprit du royaume, c'est que Dieu a déposé des dons et des talents en toi, et que tu es une pierre spéciale, et que cette pierre-là, elle n'est pas taillée sur le même moule que le monde, et on n'a pas tous à se ressembler, à faire les mêmes choses. Mais Dieu, il veut tailler ta pierre pour qu'on s'assemble ensemble et qu'on construise ensemble son royaume. Amen. Et simplement, en cette fin d'année, là, je voudrais qu'on ferme les yeux, peut-être simplement, et qu'on repose un peu tout ce qu'on vient de vous dire, et que tu te dises, Seigneur, oui, c'est la rentrée scolaire. Et qu'est-ce que je veux faire pour cette nouvelle année scolaire, Seigneur ? Est-ce que, Seigneur, tu m'appelles à plus d'intimité avec toi, Seigneur ? À rechercher plus de temps avec toi, Seigneur ? À rechercher ton cœur, Seigneur ? Et tu te dis peut-être, Seigneur, ouais, ce matin, ça m'a parlé, je veux m'engager à consacrer, Seigneur, ce temps avec toi tous les jours, Seigneur, parce que je veux te connaître plus. Peut-être qu'à travers ce qui a été dit, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, eh ben, je veux... Seigneur, plus remettre des priorités dans ma vie. Seigneur, tu vois, peut-être que je me suis lancé à fond dans le travail, peut-être que j'ai fait des choses, mais j'ai délaissé ma famille, j'ai délaissé mon couple. Et peut-être le Seigneur, il te dit ce matin, ben, remets la priorité au bon endroit. Peut-être que tu te dis, Seigneur, on parle de travail, on voit de ça, mais moi, je viens de perdre mon travail et je vis quelque chose d'injuste. Et dis, Seigneur, mais je choisis de pratiquer la reconnaissance, Seigneur. Je sais que tu es l'Éternel qui pourvoit à tous mes besoins, et je sais, Seigneur, que tu vas pourvoir pour moi. Peut-être que ton mari t'a quitté, peut-être que tu te retrouves seul, et peut-être que tu vis des choses, tu dis, Seigneur, dans cette année, je veux que toi, tu sois ma source, Seigneur. Je veux avoir, Seigneur, cette relation avec toi, et je sais que tu vas pouvoir aussi pour ma famille. Et peut-être que aussi ce qu'on a dit sur le travail, sur tes études, là où Dieu t'a placé, d'être un ambassadeur du royaume, eh ben, ça va te coûter. C'est entre Dieu et toi. Mais peut-être tu dis, Seigneur, là où tu m'as placé, cette année, je veux être un témoin. Je veux être un ambassadeur de ta justice. Est-ce que je peux amener plus de solidarité ? Est-ce que je peux amener plus de soins ? Est-ce que je peux amener plus d'amour là où tu m'as placé ? Est-ce que, Seigneur, là où tu peux amener la paix pour éviter les conflits là où tu me places, Seigneur. Et est-ce que je saisis ce matin qu'à travers l'intercession, eh ben, je peux faire changer les choses, je peux amener l'atmosphère du ciel, et que ton ministère, ce n'est pas que à l'Église, ce n'est pas que dans le corps de Christ, mais c'est beaucoup plus large, et que Dieu veut que tu sois un témoin là où il t'a placé, dans une association, peut-être que tu ne travailles pas, mais dans ton quartier, dans les réunions de femmes, là où Dieu te met, tu sais que tu peux être un témoin de Jésus. Amen. Si c'est ton cœur ce matin, ben, je veux t'inviter à te lever et à faire cet engagement devant Dieu, à dire, Seigneur, je te consacre cette année. Et peut-être que si tu as besoin de prière, on est là pour prier. Et simplement, Elliot, si tu veux jouer, on va prier pour ceux qui ont besoin. Je crois que la semaine dernière, on a prié pour les enfants, on a consacré les enfants pour cette rentrée. Mais aussi, nous, c'est notre rentrée. Et c'est une rentrée où on peut choisir de faire des choix, de prendre des décisions qui vont impacter notre année. Et je crois que voilà, c'est un temps pour ça. Et qu'on veut être là aussi si vous vivez des temps difficiles, si vous avez besoin de prière, que ce temps, ce soit un temps voilà, pour ça. On vous bénit au nom de Jésus. Ce culte, il est terminé pour ceux qui veulent rentrer. Mais s'il y en a qui ont besoin de la prière, ceux qui ont besoin peut-être de guérison ou autre, eh ben, on est là pour prier avec des équipiers de prière. On ne va pas se quitter comme ça, mais pour ceux qui le souhaitent, ben, vous avez la liberté de partir pour ce culte.